Alors, bon matin à vous tous, bon dimanche, soyez les bienvenus. Et je vois, nous avons aussi nos amis espagnols. Je vais essayer un peu de mon espagnol. Bienvenidos a nos amigos españoles. OK, ça va. Alors, prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et trouvez le livre d'Agée. Et si vous étiez ici la semaine dernière, vous savez maintenant où il se trouve. Si vous n'étiez pas là, alors un petit truc. On trouve le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Après, si on recule un livre, Zacharie. On recule encore, on est arrivé à Agée. On nous dit qu'il y avait une recette pour un ragoût au lièvre. Oui, je vois déjà des personnes qui se lèchent les babines. mais cette recette commençait par une phrase tout à fait inattendue. Premièrement, attraper le lièvre. Alors, Hudson Robinson, qui commentait cette phrase, a dit ceci. L'auteur savait comment donner priorité aux priorités. Et c'est ce qui arrive quand nous établissons nos priorités, nous mettons les choses qui devraient être en premier à leur propre place. Quelqu'un a demandé à Tom Landry, des Cowboys de Dallas, l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire de la National Football League, le football américain. On lui a demandé, mais quel est le secret de ton succès? Alors, il a répondu comme ceci. En 1958, j'ai fait quelque chose que chaque personne qui veut réussir doit faire. J'ai établi des priorités pour ma vie. Dieu, ma famille, ensuite le football. Et ce n'est pas étonnant que cet homme ait été, comme j'ai dit, un des plus grands entraîneurs de la Ligue américaine, de National Football League. Et cela, c'est l'enseignement du livre d'Agée, un appel au peuple de Dieu et à nous tous, par ricochet, à établir leurs priorités. Et c'est ce que nous allons lire maintenant, Agée chapitre 1er, on va lire les 15 premiers versets. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite, ainsi part maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi part l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que chacun de vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile et sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Alors ça, c'est notre texte pour ce matin, texte que j'ai intitulé « Combattant le bon combat de la foi » et dont le thème principal est « L'œuvre de Dieu faite pour la gloire de Dieu devrait être notre priorité numéro 1. » Et j'aimerais vous dire tout de suite que ce n'est pas facile. Ça va être un combat et ce sera un combat de toutes nos vies. Alors ce matin, je vous propose trois choses importantes qu'il nous faut savoir à propos de ce combat de la foi. Et la première chose que nous devrions savoir, c'est que nous avons tous, vous et moi, une tendance naturelle, innée, à mettre nos priorités avant l'œuvre de Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier qu'est-ce que je veux dire par l'œuvre de Dieu. Romains 12, 1 nous dit ceci, et Paul va nous exhorter à ne pas se conformer à ce monde, mais plutôt d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous ressemblions à son Fils Jésus-Christ. Romains 8, 29 nous dit ceci, que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en vous. Dieu est à l'œuvre, justement, progressivement, tranquillement, jour après jour, de nous façonner à l'image de son Fils. Mais le même texte aussi, dans Romains chapitre 12, nous dit ceci, il y a un but pour cela. Cette transformation nous permet à discerner la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfait. Et cette volonté se traduit dans le pratico-pratique de tous les jours par des bonnes œuvres. Éphésiens 2:10 nous dit ceci, que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu à travers nous. Alors nous avons les deux choses, l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de Dieu à travers nous. Autrement dit, ce que Dieu veut pour vous et pour moi ce matin, c'est que nous soyons tout ce que Dieu veut que nous soyons et que nous puissions aussi faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Ça, c'est sa priorité, pour vous et pour moi. Et ça devrait être aussi notre priorité numéro un. Et nous savons tout cela. Je ne vous apprends rien de nouveau ce matin. Ce n'est pas une problématique intellectuelle. Nous savons qu'il est futile de vivre pour les choses de ce monde. Nous savons que les choses de ce monde n'apportent pas la satisfaction promise. Nous savons que le vrai bonheur et la satisfaction se trouvent en Dieu. On l'a chanté tantôt, de connaître Jésus. Il n'y a rien de meilleur. Et pourtant, nous avons tous cette tendance naturelle à mettre nos priorités avant les priorités de Dieu. Quelqu'un a bien dit, ça c'est comme le mode par défaut sur un ordinateur. Vous l'ouvrez et vous avez toujours le même écran, pas par défaut. Et c'est la même chose pour nous. Sur nos ordinateurs déchus, nous avons cette tendance à mettre nos priorités devant la priorité de Dieu. Alors, faites absolument rien et on va suivre le courant et on va mettre nos priorités avant les priorités de Dieu. Alors, dans ce contexte d'âgé, l'œuvre de Dieu pour son peuple était de rebâtir le temple. Mais malheureusement, le peuple avait inversé les priorités et Dieu, il fallait qu'il leur dise dans Agé 1, 9, « Ma maison est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. » J'aimerais remarquer avec vous quatre choses qui caractérisait ces gens à l'époque. Vous serez surpris de savoir que ces gens étaient des gens qui étaient autrefois engagés. Zerubbabel, c'est le gouverneur. Il n'est pas devenu gouverneur en faisant rien. C'est un homme qui avait les capacités, qui avait les dons de Dieu, et Dieu l'avait choisi pour être le leader de son peuple. Il y a Josué qui est impliqué dedans aussi. C'est le souverain sacrificateur, c'est le chef religieux. Il y a le reste du peuple qui est là. Ce sont les gens que quand Cyrus a donné son édit, qui parmi vous veut retourner en Judée et justement rebâtir le temple, les autres ils ont dit oui. Et ce n'est pas tous les Juifs qui sont retournés. On nous dit que pendant, il y avait 24 classes de sacrificateurs qui avaient été amenés en captivité à Babylone, et seulement 4 classes qui sont revenues. Alors c'était les gens qui avaient craint l'œuvre de Dieu, et ils sont partis de Babylone pour justement aller en Israël pour faire l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré, ils ont commencé, il y avait, on a vu la semaine dernière, un départ enthousiasmé. Il y avait rebâti l'autel pour offrir des sacrifices, oui. Il y avait aussi célébré la fête des tabernacles, oui. Il y avait posé les fondements du temple. À un moment donné, ils ont rencontré de l'opposition. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont laissés décourager et ils se sont donné d'autres priorités et l'œuvre de Dieu a été mise de côté. Et ça, c'est un exemple pour nous, une leçon pour nous. Il faut être vigilant. Parce qu'il n'y a personne ici ce matin qui est à l'abri de cela. On peut très facilement s'identifier avec ce peuple. Et il est possible que peut-être ce matin, il y avait un temps, et très souvent c'est après notre conversion, les premiers jours, où est-ce qu'on est tout feu, toute flamme pour le Seigneur, on est engagé. Et ce matin, les choses sont différentes. Vous avez perdu votre zèle pour le Seigneur. 1 Corinthiens 10, 12 nous dit ceci, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La deuxième chose aussi à propos de ces gens qui mettaient leur priorité avant l'œuvre de Dieu, mais on peut trouver généralement des excuses pour justifier nos actions. Avez-vous remarqué, ils n'ont pas dit nous ne rebâtirons pas le temple, la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le temps n'est pas venu. Autrement dit, ce n'est pas le bon timing. On voudrait le faire, mais ce n'est pas le temps de le faire. Et vous savez, des excuses, on est passé maître à en donner, hein, souvent. On entend souvent, je suis trop jeune, trop vieux, trop occupé, quelqu'un d'autre le fera. Quand j'aurai terminé ce projet, quand j'aurai fait mon million, etc., etc. Quelqu'un a dit ceci, et j'ai trouvé ça très intéressant. Quand il s'agit de voir les choses de notre perspective, il est facile de dire, ce n'est pas le temps. Mais quand il s'agit de la perspective de Dieu, son œuvre en vous et à travers vous, c'est toujours le bon temps. Et troisièmement, les gens qui mettent leur priorité avant l'œuvre de Dieu s'exposent à la correction de Dieu. Et Dieu leur dit pourquoi là, ça allait mal dans leur vie. Vous l'avez rentré chez vous, Dieu dit, j'ai soufflé dessus. Les cieux vous ont refusé la rosée. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, etc. Ce n'est pas un sujet populaire. Nous savons et nous aimons tous voir Dieu comme un papa gâteau qui est là et qui va nous donner tout ce que nous désirant. Mais nous oublions que Dieu aussi, c'est un père d'amour et qui aime ses enfants trop pour ne pas les corriger quand ils quittent le droit chemin. Hébreux 10 nous dit ceci, Dieu nous corrige pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Dieu y a un but beaucoup plus noble et beaucoup plus élevé que nos propres buts, et c'est pourquoi il intervient. Comme d'ailleurs tout bon père. Si moi, en tant que père, je vois mes enfants faire des choses qui ne sont pas correctes, par amour, j'interviens. Alors, combien plus ce Dieu, le père, pas excellent. Et la quatrième chose ici, les gens qui mettent la priorité avant l'œuvre de Dieu sont caractérisés par l'insatisfaction. Dieu va leur dire ceci, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré, vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Et ça, c'est tragique. Les gens qui courent après les choses de ce monde Il faut manger, oui, il faut boire, oui, il faut se vêtir. Mais quand ces choses deviennent la priorité dans nos vies, ça n'amène jamais la satisfaction. Et l'Ecclésiaste va nous dire ceci, Ecclésiaste 1, 14, « Toute est vanité et poursuite du vent. » Et c'est un peu comme notre bonhomme qui est là. Il y a un vide que seulement Dieu peut remplir. Et ces gens-là, si on pourrait utiliser une expression populaire de nos jours, ils étaient frus, comme diraient les ados. Frus parce que, justement, tout ce qu'ils voulaient avoir et faire, mais ça ne marchait pas. Et ça, c'est ce qui nous caractérise trop souvent, vous et moi. Et comment maintenant, comment sortir de ce piège? Comment renverser la vapeur, comme on dit? Comment résister? Comment lutter contre ce qui nous colle à la peau? Ça nous amène à notre deuxième point. Si on veut mettre l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous, priorité notre numéro un, il faut le faire de façon délibérée et de façon continuelle. Et comment est-ce qu'on fait cela? Mais c'est par l'obéissance. Il n'y a pas d'autre manière. C'est par l'obéissance. Et si vous regardez votre texte encore au verset 12, vous allez voir Zorobabel, Josué, tout le reste du peuple âgé leur a parlé. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Entendir la voix de l'Éternel leur Dieu. Et au verset 14, qu'est-ce que nous lisons? Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel leur Dieu. Et voilà comment Israël a combattu cette tendance naturelle à mettre la priorité avant l'œuvre de Dieu, c'est par l'obéissance. Dieu a parlé, ils ont obéi et ils se sont mis à l'œuvre de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu attend de nous. Jésus-Christ a pu dire aux gens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Jacques a dit ceci, mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors la ligne de fond, c'est quand Dieu parle, il s'attend à ce que nous lui obéissons. Nous devrions obéir. J'aimerais poser une question. Comment se fait-il que Agé a parlé de la part de Dieu, il parlait au peuple, et le peuple a obéi si tôt et si vite? Et si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que ce n'était pas une caractéristique du peuple d'Israël. Il y avait des prophètes comme Ésaïe, Jérémie qui avaient prêché avant l'exil pendant de longues années, qui ont interpeller le peuple maintes et maintes fois, et même Dieu a fallu qu'il dise, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Israël n'était pas caractérisé par l'obéissance, mais ici nous avons un cas extrêmement intéressant, ça nous frappe aux yeux, Dieu parle, le peuple obéit. J'aimerais vous suggérer que la clé de cette obéissance se trouve au verset 12b. Et je crois, j'ose dire aussi que c'est la clé de toute la vie chrétienne, une vie d'obéissance. Si vous regardez au verset 12b, qu'est-ce que vous lisez? Ceci. Le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Et ça, c'est vraiment beau à voir. La parole de Dieu, livré par Agé, le prophète de Dieu, accompagné par la puissance de Dieu, a produit chez le peuple la crainte de Dieu. Et j'aimerais clarifier qu'est-ce que je veux dire par la crainte. C'est cette attitude de crainte, de révérence, de respect, d'émerveillement, et même de stupeur mêlée d'admiration devant la personne et la majesté de Dieu. Et ça, c'est un ingrédient essentiel qui devrait nous caractériser tous. Et vous savez, je vous dis ceci, il est tellement facile pour nous d'avoir un cœur endurci. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous désobéissons, les foudres du ciel ne tombent pas sur nous. Et parce que cela n'arrive pas, Dieu dans sa miséricorde, Dieu est miséricordieux, il y a une facilité pour nous d'endurcir nos cœurs. Et qu'est-ce qui arrive quand on endurcit nos cœurs? On perd justement la crainte de Dieu. Et ce n'est pas étonnant, si vous lisez Romains chapitre 3, pas besoin d'y tourner, mais l'apôtre Paul, il va cataloguer tous les péchés, justement, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le gosier est un sépulcre vivant. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destination, la destruction et le malheur sont ceux de route. Et là, il va terminer toute cette série de péchés. Il va dire une chose, la crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Voilà pourquoi il agissait comme ça. Il avait perdu la crainte de Dieu. Mais en revanche, montrez-moi un homme ou une femme qui a été saisi par la crainte de Dieu. Et je vais vous montrer un homme et une femme obéissants, dont les priorités sont à la bonne place. Et j'aimerais vous encourager ce matin parce que la parole de Dieu attache de grandes bénédictions à la crainte de Dieu. Je vous en nomme juste quelques-unes. Psaume 25, 12 nous dit ceci, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre, la voie qu'il doit choisir. » Alors, si ce matin vous voulez être éclairci quant au chemin que Dieu vous a tracé, mais craignez Dieu. La promesse est là. « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » Dieu est fidèle à sa parole. Vous voulez être éclairci? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Mais craignez Dieu, il va vous le révéler. Psaume 25, 14 nous dit ceci, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. » Vous voulez jouir d'une intimité, une vraie relation d'intimité avec Dieu? Mais craignez-le. Et j'aime beaucoup la prière qui se trouve dans Psaume 86 au verset 11, le psalmiste va dire ceci, c'est sa prière. Il va dire à Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Il savait, le psalmiste, que nos cœurs ne sont pas naturellement disposés. Et il en a fait une prière. Il va devant l'Éternel, et il va prier, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et ça, c'est une prière que sujet que chacun de nous, désormais que nous fassions, demander à Dieu de disposer nos cœurs à la crainte de nous. Il y a tellement de grandes bénédictions qui y sont attachées. Et j'aimerais juste avoir un dernier mot avant de quitter ce point, parce que c'est encourageant de voir comment est-ce que Dieu sait que nous avons cette faiblesse en nous et comment est-ce qu'il intervient pour nous aider dans la voie de l'obéissance. Le peuple entend la parole de l'Éternel. Le peuple est saisi de la crainte de l'Éternel. Et Dieu intervient pour les aider dans, justement, cette voie d'obéissance. Verset 14 nous dit ceci. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit de tout le reste du peuple. Alors Dieu voit ce désir dans le cœur des gens d'obéir. Il voit comment est-ce que la parole de Dieu a eu son effet dans le cœur et Dieu intervient par son esprit pour les aider justement à accomplir ce qu'ils avaient dans le cœur. Et combien c'est vrai, c'est ce texte, Dieu qui nous donne le vouloir et qui nous donne le faire. Et ça, c'est par l'esprit de Dieu qui habite en nous. Waouh, quel bon Père compatissant. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et dans sa grâce et dans sa bonté, il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné l'Esprit de Dieu qui nous aide quoi dans nos faiblesses. Et si nous avons ce désir à être obéissants, Dieu va l'honorer, il va nous aider justement dedans. Alors, elle n'est pas seule dans ce combat qui est encourageant. Celui et celle qui a un cœur docile, soumis à la parole de Dieu, connaît sûrement l'aide de Dieu. J'ai dit que mettre au combat le bon combat, alors mettre les priorités de Dieu avant nos priorités par l'obéissance. Mais un deuxième aspect de cela aussi, il faut le faire de façon continuelle. Parce qu'au verset 7, l'Éternel, au verset 5, va leur dire à deux reprises, il va dire, « Considérez attentivement vos voies. » Alors, regardez ce que vous êtes en train de faire. Évaluez, faites une haute évaluation et réfléchissez où est-ce que vous êtes rendu. Et ça, c'est très important. Dieu a demandé à Israël de le faire pour qu'ils se rendent compte qu'ils avaient justement inversé leurs priorités. Chacun s'empressait pour sa maison, tandis que la maison de Dieu était détruite. Et Dieu nous demande aussi la même chose aujourd'hui. C'est très important pour nous d'avoir cette haute évaluation, tellement que c'est facile justement de se glisser puis de se bifurquer, que c'est très pratique justement de faire cette haute évaluation. Et j'ai nommé quelques domaines où est-ce qu'on peut avoir justement de considérer nos voies. Notre argent, ou plutôt l'argent du Seigneur qui nous a confié. Est-ce que la manière que nous utilisons cela reflète le fait que Dieu est numéro un? God is number one. Proverbe 3:9 nous dit ceci, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Est-ce que nous sommes en train de faire? Deuxième chose aussi que Dieu nous a donné, c'est le temps. Et comme vous le savez, avant que vous veniez au monde, vos jours, Dieu vous a donné. Moi, je ne sais pas, vous ne savez pas, mais vous avez eu un certain nombre de jours. Quelques-uns de nous vont en avoir un peu plus, quelques-uns moins, comme dit la parole 70 et les plus robustes 80, et même de nos jours, les centenaires. Mais ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on nous utilise le temps que Dieu nous donne. Et est-ce que, en anglais, time slips through my hand, ça veut dire que le temps, là, ça la coule douce, puis on ne le voit pas passer, ou bien est-ce que c'est le contraire? On est tellement occupé, là, on court ici, à droite et à gauche, puis on n'a pas le temps, justement, pour les vraies priorités de Dieu. Éphésiens 5:15, un texte que vous connaissez. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ou sagement. Non comme des insensés, mais comme des sages, racheter le temps. Et je pouvais en admettre, mais je vais juste dire aussi que nos buts, nos loisirs, nos modèles, nos pensées, etc., etc., la liste est longue. Mais dans toutes ces choses, est-ce qu'il est évident que l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous est à la bonne place? C'est ce que Dieu demande ce matin. Considérez attentivement vos voies. Est-ce que les priorités sont à la bonne place. Et comme j'ai dit, ce serait un exercice assez intéressant de faire, justement, d'évaluer nos priorités. Et troisièmement, si on va, justement, remporter le combat, il faut aussi savoir que mettre de l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous apporte la vraie bénédiction. La vraie bénédiction. Si vous regardez au verset 8, Dieu va dire ceci à Israël, « Bâtissez la maison et je serai, glorifié. » Et c'est ce qui arrive quand l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous est prioritaire. Dieu est glorifié. À la fin de sa vie terrestre, Jésus-Christ a pu dire à son Père quand il priait, Jean chapitre 17, « J'ai achevé, je t'ai glorifié sur la terre. » Pourquoi? Parce que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et comment est-ce que Jésus, dans le pratico-pratique, a fait cela? Vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il a dit? Non ce que je veux, mais ce que tu veux. La priorité de Dieu était à la bonne place. Et c'est comme ça qu'il a glorifié Dieu. L'apôtre Paul, il va dire ceci, Christ sera glorifié dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Et comment est-ce qu'il a pu dire cela? C'est parce qu'encore Paul a mis aussi les priorités à la bonne place. Pour Paul, il y avait une chose. Christ est ma vie. Priorité numéro un. Et comme je vous ai dit ce matin, Dieu nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous a exhorté d'être ses imitateurs. Jésus a glorifié Dieu. L'apôtre Paul a glorifié Dieu. Qu'en sera-t-il pour nous, vous et pour moi? Et des fois, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu, là? Dieu est glorieux. Si vous regardez l'Ancien Testament, là, les gens qui sont venus avec une face à face, on pense à Moïse devant le buisson ardent. Et la gloire de Dieu qui est là, même aussi à la naissance de Jésus, quand les anges sont descendus, puis la gloire de Dieu a resplendi. Dieu est glorieux. Mais le texte ici est en train de nous dire que quand Dieu est glorifié, c'est quand les gens de l'extérieur voient comment est-ce que Dieu est à l'œuvre dans votre vie et dans la mienne, et à leurs yeux, Dieu est grand. Ça, c'est glorifier Dieu. Et ça, c'est quand on met ses priorités avant nos propres priorités. Et une autre bénédiction aussi qui découle de cela, la présence de Dieu devient une réalité. On est béni par la présence de Dieu. Au verset 13, Agé va dire au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, Dieu va leur dire, je suis avec vous. Le moment qu'ils ont été appris, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont été saisis de la crainte de Dieu, Dieu dit, je suis avec vous. Et vous savez, Dieu a promis, souvent on entend, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous. Oui, il y a des textes qui disent cela, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Dieu est avec nous. Mais il y a un monde de différence entre Dieu qui dit, je suis avec vous, et le fait que nous sommes conscients de sa présence. Toute une différence. Et dans Psaume 16, au verset 2, c'est pas besoin d'y tourner, mais on voit le psalmiste qui dit ceci. Il va dire à Dieu, « Tu es mon souverain bien. Tu es mon bien et tu es mon plus grand bien. » La priorité est la bonne place. Et qu'est-ce qu'il dit après? J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ça veut dire que je vis consciemment, je suis conscient de sa présence. Et ça, c'est quelque chose que vous allez expérimenter quand Dieu est votre priorité. Même de façon générale, Dieu est avec vous, mais vous serez conscient de sa présence. Et qu'est-ce qui découle de cela? Mais le psalmiste continue. Il dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il y a la confiance. Je ne chancelle pas. Il y a la confiance parce que la présence de Dieu qui est réelle pour lui dans cette confiance. Et la deuxième chose, il dit, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Il y a la joie. Et vous savez, ce sont deux choses tellement nécessaires pour la vie. Parce que la vie peut nous amener des mauvaises choses. On n'est pas à l'abri. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la tempête, et peut-être ce matin, il y a quelques-uns de vous, vous êtes là. Mais si vous êtes conscient de la présence de Dieu, pas de façon générale, mais parce que vos priorités sont à la bonne place et vous êtes conscient de la présence de Dieu, vous aurez la confiance de faire face à ce que la vie peut vous apporter et vous aurez la joie même dans l'épreuve. Parce que c'est ça qui découle quand la priorité est à la bonne place, on est conscient de la présence de Dieu, c'est réel pour nous et cette conscience, cette présence-là nous donne la confiance d'affronter la vie et ça nous donne aussi la joie, même à travers les épreuves. Alors, conscient de sa présence, mais aussi, ça nous apporte une deuxième chose, on est comblé de ses provisions. Dans Psaume 84, 12, dit ceci, « L'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et ça ne veut pas dire que Dieu va nous donner une Rolls-Royce ou un jet privé ou un bateau de luxe. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Remarquez bien, pour marcher dans l'intégrité, c'est quoi? C'est d'avoir nos priorités à la bonne place. Et quand nous avons nos priorités à la bonne place, Dieu ne refuse aucun bienfait. Ça veut dire quoi? Nous sommes comblés de tout ce dont nous avons besoin pour marcher dans la voie qu'il nous a tracée. On ne manque de rien. On est comblé, on n'est pas frustré comme Israël était. parce qu'il allait, il allait à l'encontre de la volonté de Dieu. On est comblé de, justement, de tout ce dont nous avons besoin. Comblé de ses provisions. Et troisièmement, conscient de sa présence, comblé de ses provisions, mais quand Dieu dit « Je suis avec vous », nous sommes aussi saints de sa puissance. C'est ça qui, conscient justement de la réalité de la présence de Dieu, nous donne une hardiesse, nous donne la puissance justement pour faire face à la vie. Et je prends l'exemple de David ici avec Goliath, parce que dans cet confrontement, où est-ce qu'il est allé confronter le géant Goliath, David n'est pas allé tout seul. Dieu était avec lui, mais David le savait. Ce n'était pas juste de façon vague, « Oh, Dieu est là, il est avec nous. » Quand il a dit au géant, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Le même terme que nous avons en âgé, David était conscient que Dieu est avec lui. Et dans cette Proverbe 18, 10 nous dit ceci, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et conscient de la présence de Dieu avec lui, saint de la puissance de Dieu, David a remporté la victoire, une victoire éclatante. Et cette même puissance est à notre disposition quand nous mettons la priorité à la bonne place. C'est ça qui arrive quand on met Dieu à la bonne place. On est comblé. On a tout ce dont nous avons pour remporter les victoires. 2 Timothée 1, 7 nous dit ceci, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais il nous a donné un esprit quoi, de puissance. Et comment se fait-il qu'on a tellement de difficultés dans nos vies chrétiennes? C'est parce que quand on inverse nos priorités, qu'est-ce qui arrive? On attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, nous sommes privés de sa puissance. Aussi simple que cela. J'aimerais terminer ce matin juste avec une conclusion, mais deux, en fait. Si vous êtes croyant ce matin, j'ai parlé de Matthieu 6, 33 la semaine dernière. Ce texte applique et s'appliquera à vous et à moi tout au long de notre vie chrétienne. On ne peut pas y échapper. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu est infiniment sage. Et quand nous mettons ça à la bonne place, nous allons prospérer, nous allons devenir tout ce qu'il veut que nous soyons. Nous allons avoir une vie bénie et nous serons aussi une source de bénédiction pour d'autres. C'est garanti. Alors, si vous faites l'œuvre de Dieu en vous et à travers vous, votre priorité numéro un, toutes les autres choses, manger, boire, chose légitime, se vêtir. Dieu a dit, je vous donnerai ces choses. Mais faites de moi votre priorité numéro un. Et deuxièmement, si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, il y a un autre texte, Matthieu 8, 36. Que sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Question très importante. Pourquoi? Parce qu'une âme est précieuse. Tellement précieuse que Jésus-Christ est descendu du ciel pour chercher des âmes perdues. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce matin, par un simple acte de foi, vous pouvez passer des perdus aux sauvés. Vous pouvez passer des morts aux vivants. Ce n'est pas compliqué. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croyez que vous êtes perdu. Et même si vous gagnez tout le monde et vous avez tout ce que vous désirez, n'oubliez pas le texte en âgé. Croyez que Christ est mort pour vous individuellement sur la croix par amour pour vous. Croyez cela et Dieu vous sauvera. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Il y a un cantique, un vieux cantique qu'on chante, puis qui aussi le Seigneur a utilisé dans ma conversion. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Les âmes sont précieuses. On peut gagner tout le monde, mais si on perd notre âme, c'est la plus grande tragédie. Alors ce matin, c'est une décision importante que vous avez à faire. Si vous ne connaissez pas le Christ comme votre sauveur personnel, Dieu a fait tout ce qui est nécessaire. Il demande simplement un acte de foi dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Le contraire, c'est de quitter ce monde toujours dans vos péchés. Votre âme soit perdue en enfer pour toute l'éternité. Ce serait tragique. Alors, par la grâce de Dieu, si vous ne l'avez pas fait ce matin, je vous invite de faire le Seigneur Jésus-Christ, votre sauveur et votre Seigneur. On va prier. Seigneur, tu nous interpelles ce matin. Et en étant honnête et transparent devant toi, oui, il faut confesser que nous avons cette tendance de mettre nos priorités devant tes priorités. Et comme nous avons vu ce matin, c'est futile. Tu nous aimes trop pour nous laisser sur ce chemin. Alors parle à chaque cœur ce matin, parle à mon cœur, le premier. Et merci Seigneur pour toutes ces bénédictions que tu nous donnes, comme nous avons vu, quand nous prenons cette décision de te laisser avoir la première place, combien nous sommes comblés. Seigneur, nous voulons aussi te demander ta miséricorde pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es un Dieu qui est gracieux, tu es un Dieu qui est plein d'amour. Donne-leur cette révélation de ta personne, Seigneur, afin qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise voie et se confier en toi. Alors merci d'être un Dieu patient, un Dieu fidèle. Et même si nous sommes infidèles, Seigneur, tu es toujours à l'œuvre pour que nous soyons tout ce que tu veux que nous soyons et que nous puissions faire aussi tout ce que tu veux que nous fassions. Merci, Seigneur, que tu ne te délaisses pas. Tu travailles toujours et tu vas travailler jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Alors, sois béni et sépare-nous maintenant avec ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.